101.5 FM.
Yeah. What's up? Mm-hmm. Nigga. Yeah, it's me. Yeah. I'm back, baby. Cut that.
I'm in the couch, how handsome your furniture, lovely and now.
On est déjà mardi soir et vous êtes sur Radio G 101.5 FM. C'est l'heure du crime. Et oui, en Anjou, l'heure du crime, elle change de fuseau horaire. C'est à 21h. Alors, on vous imagine chez vous, derrière votre petit poste de radio pour capter les premiers frissons de cette soirée. Bon, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, vous allez prendre un petit coup de vieux en version naphtaline. En pointillé dans cette émission, Pépé le Moko, aussi bien le roman que le film. On en recause très vite, mais il y aura une interview de Thierry Tuborg, petit-fils du romancier. Luc, pour sa toute première fois, nous causera d'une grande dame qui a immortalisé des moustaches. Avec Toups et son saxo, on parlera cinéma d'action français, différent de l'action française. Et Linda, qui débute cette émission, nous propose une tétralogie en bande organisée mais dessinée, L'or et le sang. Luc est avec moi, salut Luc.
Hello, bonjour à tous.
Et Linda et Toups nous lâchent pour la partie directe mais pas enregistrée. Vous écoutez Calibre 58, l'émission qui vous donne envie de vous plonger dans le noir. Et maintenant, générique, maestro.
Donc ce soir, je vous fais une chronique qui rebondit sur la précédente parce que j'étais pas hyper contente. Faut dire que pour moi, le sujet n'était pas très inspirant. Je parle du sujet du personnage. Oui, personnage de James Bond qui donc ne m'a pas inspiré. Et quand il n'y a pas de désir, eh ben il n'y a pas de désir. Alors je me suis dit, faudrait pas que les gens ils pensent que c'est parce que tout ça, c'est des mâles qui parlent de mâles et que je fais ma féministe primaire. Non, 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 ce n'était pas à cause de ça. C'était vraiment parce que c'était chiant. Mais par contre, là, moi, je vais vous parler d'une histoire de mâles qui est captivante. C'est une bande dessinée en 4 tomes. Ça s'appelle « L'or et le sang ». 4 tomes, non, le premier s'appelle L'appel du large, ensuite on a Inch'Allah, Les princes du Djebel et Khalil. C'est d'après une idée originale de Morin de France, scénario lui-même avec Fabien Nury, dessin de Fabien Bédouel et Merouane, couleur de Romain Tristan. Que des hommes. Je vous la fais courte, l'histoire, 2 hommes. Encore, qui n'aurait jamais dû se croiser, un aristocrate et un corse.
Pardon.
Et un Toups qui s'étouffe. Ils scellent un pacte dans les tranchées de la Grande Guerre et figurez-vous que l'aristo tiendra sa promesse au prolo. Si, si, si. Ils quittent tout pour partir à l'aventure à bord de leur voilier, la Rouge. Je ne vous dévoile pas le sens du mot. Bah, vous aurez qu'à lire. Non, sinon je dévoile trop le bouquin. Ensuite, nos 2 héros, Léon Matillo et Calixte de Prampéan, je vous laisse deviner qui est le prolo corse de l'aristo parisien, débarquent à Tanger en plus. À qui vont-ils vendre leurs armes de contrebande? Aux colons ou aux indépendantistes? Aux plus offrants ou aux plus dignes? De l'éthique dans le trafic d'armes. Nos deux cocos oseront-ils défier l'Europe? Vous vous rendez compte, tout ça à cause d'un hérisson alcoolique. Ce qui peut paraître obscur, soit, dit comme ça. Mais je n'ai pas envie de vous en dire plus, là non plus. Alors là, question coup de feu, sans qui gicle. Femmes faciles et magnifiques, les westerns et autres James Bond n'ont qu'à bien se tenir. Mais tout est dans le comment, nom de Dieu! Pardon.
Rumtudu.
Oui.
Rumtudu, ça passe.
Ça passe mieux, hein.
Ah oui.
Bordel. C'est intelligent. Une aventure singulière, projetée dans un contexte historique, marquant. Comment les personnages, aussi attachants qu'insupportables, donc attachants, attrapent des situations plus grandes qu'eux. C'est engagé dans le sens, engagé aux côtés de ceux qui souffrent, mais sans angélisme. Le regard quitte l'Occident, avec Léon et Calixte, pour glisser vers l'Afrique. C'est moins lisse, moins rond. On a du mal à trouver ce qui a pu être positif dans cette affaire de colonisation.
Alors...
Oh là, je non, sens non. Une question poindre.
Non, non, mais il peut pas. Il n'y a pas de côté positif dans la colonisation. Il n'y a pas de positif.
Oui, non, mais c'est ça que j'essayais de dire sans en prendre des gros sabots, si tu veux.
Ok, ok.
Ça ira.
Ok, ça ira.
Bon, ok. Enfin, et surtout, c'est inattendu et drôle. Et que ce soit le scénario, les dialogues, les dessins, c'est vivant, décapant et drôle.
Alors moi, je me souviens plus de cette BD. Je me souviens du début où ils sont dans les tranchées et effectivement, il y a une histoire de hérisson qui arrive à savoir et d'un seul coup, le gars...
Tout dévoiler ce que j'ai pas dit tout à l'heure. Tu veux qu'on le dévoile quand
même ? Il faut le dévoiler.
Il faut qu'on le dévoile.
Bah oui, parce que c'est fabuleux.
Parce que le petit mammifère est beaucoup plus sensible aux vibrations que l'être humain. Et donc, il sent arriver... avant tout le monde, quand il va y avoir une attaque de l'ennemi. Donc, il la patte, en fait, avec de l'alcool, en se privant sur la ration d'alcool. C'est le Corse qui fait ça. Pour pouvoir amadouer le hérisson. Donc, hérisson alcoolique qui revient picoler tous les jours. Et comme ça, eux, ils ont une espèce de petite vigie. Ils savent à quel moment il faut aller se planquer avant tout le monde. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir réussir à sauver Calixte de Prampéan. Et que dévoile pas que ça, il va vraiment le retenir dans, enfin le sauvegarder de sa folie en fait, pour l'empêcher de mourir, et de là naît un pacte à vie.
Je pense que ça c'était important de le dire.
Mais c'est bien, merci Toups.
Avec plaisir.
Alors en plus moi ce que j'ai aimé dans l'objet, c'est aussi la poésie du graphisme et tout ce qui est entouré, parce que c'est l'objet est beau. À l'intérieur des tomes, il y a à chaque fois des esquisses, des ébauches progressives de recherche des personnages, des rendus d'ambiance, des explications des auteurs, etc. Ils ont bossé comme des dingues. Moi, franchement, j'ai une seule chose à dire, mais bravo les gars, à tous les niveaux. Vous aurez compris, tous, j'ai été emballée du début à la fin par cette histoire de mâle écrite par des mâles, généreux et beaux.
Du coup, tu as été conquise.
J'ai dit quoi ?
Non.
J'ai dit conquitte ?
Non. Emballée.
J'aimais bien, en fait.
Comme c'est des mâles... C'est...
Ouais, ils emballent. Oui, mais c'est pour ça que j'ai fait un peu exprès.
C'était le côté conquérant, côté testostérone.
Ah oui.
Enfin, bref.
Ouais, mais emballer une nana aussi. Bon.
Aussi, oui.
Bref. Voilà, c'était dans la finesse.
Voilà.
Radio G, 101.5 FM.
Alors, emballé ou pas, telle est la question. Mais quand je vous disais que vous alliez prendre un petit coup de vieux, c'était pour vous dire que L'or et le sang, c'est chez Glénat et ça a commencé en 2009 pour s'achever en 2016. Alors, si vous voulez le lire, précipitez-vous plutôt dans votre bibliothèque préférée la plus proche. Mais maintenant, accrochez-vous, car dans cette machine à remonter le temps qui est calibre 58, Luc nous embarque en 1917 ou 1920, c'est selon
C'est selon, Julien, c'est selon. Et tu as avoué lors d'une émission précédente ton fort goût pour les vieilles anglaises. Alors cette chronique aujourd'hui, pour toi, c'est cadeau. Je t'offre la vieille anglaise par excellence, sans qui le roman noir ne serait rien. Je t'offre Agatha Christie et sa toute première fois, la mystérieuse affaire de Style. Entrons dans le vif du sujet. L'histoire se déroule pendant la guerre 14-18 dans la propriété Styles Court, près du village de Styles Sainte-Marie. Une grande propriété, possession de Miss Emily Cavendish, veuve, mère de John, étudiant en médecine, et Laurence, poète à la dérive. Pour tout dire, Emily Cavendish est plutôt âgée, s'est remariée avec Alfred Inglethorpe, au moins de 20 ans plus jeune qu'elle, et fort antipathique. Et c'est elle qui tient les cordons de la bourse. Autour de la famille gravite la femme de John, Cynthia Murdoch, une laborantine, orpheline protégée de Miss Cavendish, et Evelyn Howard, gouvernante, qui dès le début du roman quitte son emploi, furieuse contre Alfred Inglethorpe. En à peine quelques pages, Agatha Christie dresse la scène du drame, paysage et personnage compris. On est bien dans l'Angleterre bourgeoise du début du XXe siècle, toute de conventions et de préséances qui fait le charme de la papesse du roman policier à l'anglaise. Et puis il y a Arthur Hastings, militaire blessé de guerre, dont le rêve est de devenir détective, ami de John Cavendish, qui l'invite à venir en convalescence chez lui, enfin chez Miss Cavendish. Et voilà-t-il pas que dès son arrivée, Miss Cavendish meurt dans d'étranges convulsions. Plus mystérieux encore, les deux portes accédant à la chambre de Miss Cavendish sont fermées à clé de l'intérieur. Et là, on se retrouve dans un des grands classiques du roman policier façon mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, qu'Agatha Christie admire au plus haut point. Le docteur Wilkins et le docteur Bauerstein recommandent une autopsie, cette mort leur paraissant suspecte. Cette mort étrange intrigue aussi Hastings, qui propose, malgré l'intervention de Scotland Yard, de solliciter son ami Hercule Poirot, détective privé, je devrais dire le détective privé de nationalité belge, lui aussi en repos, tout près de Styles Court. Et en à peine 20 pages, Agatha Christie a mis en place tous les éléments de son whodunit. Who has done it, qui l'a fait. Elle va distiller des indices qui font que même pour nous, lecteurs du 21e siècle, tous les personnages vont devenir suspects les uns après les autres. Aujourd'hui, cette forme de roman policier est un peu désuète, voire éculée. Mais en ce début de 20e siècle, elle était très appréciée. Agatha Christie en a compris tous les codes et à la lecture de la mystérieuse affaire de Styles, on devine qu'elle a beaucoup lu ses classiques, Gaston Leroux qu'elle admirait, et surtout Conan Doyle. Le couple Hercule Poirot-Hastings fait immédiatement penser, bien entendu, au couple Sherlock Holmes-Watson. Les deux détectives sont parfaitement originaux, méprisants et condescendants à souhait, imbus d'eux-mêmes. Tous les deux utilisent leur raisonnement logique pour mener leurs enquêtes, et tant Watson que Hastings sont quand même des faire-valoir. La mystérieuse affaire de Style est le tout premier roman publié d'Agatha Christie. Elle l'écrit en 1917, mais il n'est publié qu'en 1920. Et là, tu as raison, Julien. Mais s'il y a un mystère en réalité, ce n'est pas l'enquête que mènent Arthur Hastings et Hercule Poirot. C'est le plaisir que l'on a à lire ce roman. Tous les ingrédients nous sont connus. On a lu ce genre de dizaines de fois et pourtant le roman fonctionne parfaitement. Pour ce qui me concerne, Agatha Christie, comme Simenon d'ailleurs, sont une manière de mettre étalon littéraire. La traduction de Thierry Arson, dense, précise, loin des à peu près googliens, y est pour beaucoup. Elle réussit à représenter l'univers Agatha Christien tel qu'on l'imagine et se le donne un réel plaisir, je dirais plutôt un confort de lecture. Ce premier roman publié, ce qui n'est pas le premier écrit, rencontre un succès d'estime. Il faudra attendre quand même la publication du meurtre de Roger Ackroyd pour qu'elle connaisse le succès. Après la mystérieuse affaire de Style, elle publiera 65 autres romans, de nombreuses nouvelles et des pièces de théâtre. Elle fait mourir Hercule Poirot en août 1975 et elle tire sa révérence le 12 janvier 1976. Agatha Christie, c'est des milliards de livres vendus, des traductions à n'en plus finir, des distinctions innombrables. Mais ceci est une autre histoire.
Eh oui, Dame Agatha. elle nous fera toujours rêver. Moi, j'aime bien le woodenite, hein, même si c'est un peu désuet, c'est quand même très très efficace et c'est bien mieux que le cozy crime qu'on nous vend aujourd'hui. D'ailleurs, je signale au passage que les éditions Archipoche rééditent Ngaio March en mettant en quatrième de couverture que c'est une des premières à faire du cozy crime, ce qui pour moi est une aberration totale. Elle ne fait que du woodenite.
C'est dingue ces polémiques qu'il y a dans le genre.
Ouais, je pense que c'est des polémiques qu'il faut entretenir.
Mon cher Victor.
On écoute maintenant un petit morceau de musique histoire d'entrer dans l'ambiance. Vous êtes sur Radio G 101.5 et vous écoutiez Los Carayos Mustapha. C'était sorti en 1990 dans l'album Au prix où sont les courges. Et oui, je me suis dit qu'un brin d'exotisme avant d'attaquer Pépé le Moko s'imposait. Pépé le Moko. Tout le monde en a entendu parler grâce au film de Julien Duvivier. Mais comme souvent à l'origine, il y a un roman. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Derrière chaque grand film, il y a souvent un roman. Écrit en 1931 d'un certain détective HLB. Eh bien, figurez-vous que ce roman n'était plus disponible depuis Belle Lurette. J'aime bien aussi ce terme, ça fait désuet. HLB. Derrière cet acronyme se cache Henri Labarthe. Trois mots, trois initiales, et vous avez un pseudonyme. On peut se demander pourquoi le roman Pépé le Moko n'était plus disponible. L'auteur a commis en tout et pour tout trois romans, et deux ont été adaptés et font partie de la légende cinématographique. Dédé d'Anvers, c'est encore lui. Et vous, chers auditeurs qui nous écoutez, vous avez sûrement tenu entre vos mains un journal qu'il a lancé à l'époque. N'est-ce pas, Luc, que tu as tenu entre tes mains un journal qu'il a lancé à l'époque ?
Ben, je tenais justement un journal entre les mains qu'il a lancé à l'époque.
Et je veux parler de détective.
C'est lui qui a lancé Détective.
Et oui, un torchon que personne n'admet lire, mais pour paraphraser Daniel Pennac, laissez-le dans vos toilettes et vous verrez que vos invités y resteront un peu plus longtemps que de coutume.
C'est toujours élégant, Pennac.
Toujours, toujours, moi j'adore. Revenons à Pépé le Moko, le roman. Dans cette histoire, si tout débute à Marseille, tout va se prolonger à la Casbah d'Alger, un quartier que les flics ne peuvent encadrer et dans lequel se terre le fameux Pépé le Moko. Alors, si j'en parle là, c'est parce que c'est un peu différent dans le roman que dans le film. Luc, je te laisserai la parole pour le film plus tard. Pépé le Moko, c'est un gars un peu frustre. Il cause un argot à situer entre Eugène Sue et ses Mystères de Paris et Albert Simonin quand il écrit son fameux Grisby en note Grisby. Un argot de voleur, de moins que rien. Pépé le Moko, c'est un roi sans royaume qui vit libre dans sa prison de la Casbah. Et on pourrait le laisser tranquille, mais voilà, c'est la police française et il faut l'arrêter. Alors là arrive l'inspecteur Slimane, un policier arabe, donc forcément rusé, au service de la France, donc forcément traître, qui va avoir une idée, faire sortir le pépé de sa casbah en le prenant par là où ça fait mal, sa faiblesse pour les femmes. Et ça tombe bien car Gabi, une belle blonde, riche comme le Crésus qu'elle a pour amant, souhaite s'encanailler. Elle sera le cheval d'Alger de Slimane. Mais Pépé a déjà une maîtresse, Inès Lamoresque. Et, bon, comme toutes les maîtresses, elle est jalouse. Alors, tout ça ne peut que mal finir. Le roman Pépé le Moko est bien sûr à resituer dans son époque. HLB n'est pas Macorlan, mais il y a quelque chose chez cet auteur. Les textes sont plutôt bien foutus, les dialogues sonnent justes, il y a cet argot. Et puis les dimensions tragiques des personnages, avec en filigrane les trajectoires opposées et pourtant similaires de Pépé le Moko et de Slimane. C'est-à-dire aux éditions relatives. On écoute justement Thierry Tuborg, l'éditeur, qui nous en apprend de belles sur HLB, Pépé le Moko et lui-même. Thierry Tuborg, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ces éditions relatives ?
Alors, les éditions relatives, c'est une petite structure éditoriale que j'avais mis sur pied il y a une vingtaine d'années. Enfin, au début, ça s'appelait pas les éditions relatives, ça s'appelait le Cercle Séboréique. J'avais cherché un nom un peu bizarre qui voulait rien dire. Maintenant, donc, ça s'appelle les éditions relatives parce que, enfin, moi, j'ai toujours voulu me consacrer à l'écriture et après maintes années de propositions de manuscrits infructueuses, c'était le début de l'Internet et je me suis dit, je vais proposer ça gratuitement aux lecteurs et aux internautes. Et de fil en aiguille, j'ai vu que ça pouvait intéresser un petit lectorat très, très modeste, mais suffisant pour me réaliser moi-même. Donc c'est une petite structure éditoriale sous forme associative que j'avais mis sur pied pour pouvoir publier mes propres romans. Il se trouve qu'il n'y avait que moi comme auteur jusqu'à il y a quelques mois, il n'y avait que moi comme auteur dans cette petite structure d'édition. Et à présent, il y a donc Pépé le Moko.
Alors justement, pourquoi publier Pépé le Moko ?
Alors Pépé le Moko, il se trouve que l'auteur du roman dont a été tiré le célèbre film, l'auteur de ce roman qui a signé Détective HLB, il se trouve que c'est mon grand-père. HLB, ça veut dire Henri Labarthe, et mon nom d'état civil, effectivement, c'est Thierry Labarthe. L'historique de la republication de Pépé le Moko, c'est d'une part... Moi, j'ai eu une grosse brouille avec mon père, qui est donc le fils de l'auteur. J'ai eu une adolescence assez difficile et on s'est brouillé pendant 40 ans. Ces derniers temps, c'est vrai que mon père étant très âgé, j'avais pas envie qu'il quitte ce monde avec, qu'il soit en paix. Je voulais qu'il parte en paix, donc je me suis réconcilié avec mon père. Et donc il a refait connaissance avec moi, il a vu que j'avais une activité d'auteur-éditeur, et germait en nous l'idée de republier ce roman qui n'intéressait apparemment plus du tout les éditeurs depuis 60 ans. Et donc, comme mon père était l'ayant droit et moi son fils, on a donc décidé d'un commun accord de republier dans ma petite structure d'édition, comme nous le souhaitions nous, sans rien demander à personne, de republier l'œuvre de mon grand-père, un petit peu pour remettre les choses au point par rapport au film, parce que quand on cite Pépé le Moko, c'est tout de suite le film de Duvivier, et c'est plus du tout le roman de HLB Henri Labarthe. Donc c'était un peu pour rétablir les choses.
Alors, vous nous avez expliqué que ce roman survient avec la réconciliation avec votre père. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre grand-père ? Parce que c'est quand même, lui aussi, un personnage de fiction.
Ah, tout à fait. c'est sûr, mais et ça reste très mystérieux parce que autant mon père que nous, par la force des choses, on a eu que très peu d'informations sur HLB. Mon père, durant son enfance, il a été complètement abandonné par HLB. Il était éduqué par ma mère, ma grand-mère, je veux dire, et ma grand-mère faisait des pieds et des mains pour que HLB reconnaisse l'enfant qui était sans doute né d'une soirée, d'une rencontre d'un soir. En fait, voilà. Et donc, on l'a pas connu. Quand mon père avait 7-8 ans, il a carrément disparu de la circulation. On n'a plus de nouvelles. Même ma grand-mère n'avait plus de nouvelles. Et ça a été très mystérieux. Alors, on s'est toujours demandé qu'est-ce qui, dans les années 50, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il est parti aux États-Unis? Parce qu'il y a eu des remakes de Pepe Le Moko à Hollywood. Moi, mon idée, c'est que HLB, il est parti tenter sa chance à Hollywood. Et en fait, on a eu, même la date de sa mort, on l'a su très tardivement. Il a fallu que Dominique Khalifa, qui était un universitaire spécialiste du crime et de la police, qui lui se penche sur les archives de la préfecture, etc. Et c'est Dominique Khalifa qui nous a donné le plus d'informations sur notre propre aïeul. C'est quand même, c'est très mystérieux, HLB. Donc c'était un homme qui a commencé en tant que détective, après qui a monté une agence de détective, qui a fait des pièces radiophoniques, qui a écrit trois romans, et qui a participé à divers scénarios.
Alors, dans les années 1930, puisque le roman sort en 1931, ça représente quoi la Casbah à Alger ?
Alors, la Casbah, c'est vraiment le repère de tous les brigands qui souhaitent se mettre un peu au vert. C'est là où on peut se dissimuler de la police métropolitaine, on va dire. Et c'est vrai que c'est un repère de brigands, quoi. Ni plus ni moins, on ne s'y aventure pas comme ça. C'est là où Pepe Le Moko a trouvé refuge.
Alors, expliquez-nous comment il se forme cet étrange triangle amoureux entre Pepe Le Moko, Gabi et la Mauresque.
Alors, ça, c'est toute la subtilité de ce fameux inspecteur Slimane, qui est ce qu'on appelle un autochtone qui est au service de la police française, quoi, basé à Alger, qui lui connaît bien Pepe Le Moko, il connaît bien aussi sa compagne, la Mauresque, et il connaît leur psychologie. Et lorsqu'il entend parler de cette fameuse Gabi, qui est la Parisienne blonde, très belle, etc., qui souhaite avec ses amis visiter la Casbah, il va donc germer en lui le plan pour enfin faire en sorte que Pepe Le Moko s'éloigne un peu de la Casbah où il a toute la sécurité par rapport à la police. Donc il va inciter Gabi et ses amis à visiter la Casbah. Il va tout faire pour que Pepe Le Moko tombe amoureux de cette Gabi. Et lorsque Gabi reviendra dans Alger, en dehors de la Casbah, il va tout faire pour que Pepe Le Moko sorte de la Casbah pour venir la rejoindre. Et c'est là qu'il pourrait l'arrêter.
Alors, on a parlé en introduction du film du Vivier qui a fait beaucoup de mal, entre guillemets, au roman. C'est quoi les différences principales entre le film et le roman ?
Alors c'est vrai que le film, c'est normal pour le cinéma et le cinéma à cette époque, le film se base davantage, c'est l'impression que j'ai, se base davantage sur la romance, l'amour, la beauté féminine, le truand qui tombe amoureux. Alors que ce que moi j'ai retenu du roman, c'est davantage une description du monde des truands, leur psychologie, qui n'apparaît pas autant dans le film. Le film est plus axé sur l'histoire d'amour, la romance, la beauté, Gabi qui brille, etc. Ça vient aussi dans le roman, mais le roman est plus sur le côté truand.
Et enfin, la dernière question, la sacro-sainte question, on écoute quoi comme musique maintenant ?
Moi, je suis un fan de rock et de punk rock, et c'est vrai que Casbah, pour moi, c'est Rock the Casbah de Clash. C'est vraiment, je pense que là, ça s'impose absolument.
Eh bien, on écoute Rock the Casbah des Clash. Thierry Tuborg, je vous remercie et je rappelle qu'on peut se précipiter sur le site des éditions relatives. Toutes les informations seront sur la page, sur le podcast de l'émission. Voilà, merci à vous.
Mais merci, à bientôt.
Vous écoutiez Rock the Casbah des Clash pour illustrer...
Misérablement chinté.
Oui, mais j'allais y venir pour illustrer Pépé le Moko, reparé aux éditions relatives. Et oui, dans, quand j'ai fait mon conducteur, je n'avais que très peu de temps, donc j'avais décidé de couper un petit peu cette chanson. Et puis là, les aléas du direct font que j'ai oublié une piste sonore, celle que je voulais vous proposer avec Toups au saxo.
En plus, tu nous prives de Toups au saxo.
Ouais, je vous prive de Toups au saxo. Oh. J'en suis extrêmement confus.
Marie, on dit, j'en suis Marie.
Oui, Marie confus. Promis, la prochaine fois, on vous le fait en mieux. Donc, nous allons passer maintenant à la découverte de notre film de la quinzaine. Et là aussi, on a été un peu feignants cette semaine. Alors, on a ressorti de la vidéothèque une vieille VHS de Julien Duvivier, hein, Pépé le Moko. Luc, tu nous en fais le pitch et après, on écoute un extrait suivi d'une discussion entre Toups et Linda avant de reprendre la main.
Alors, ben, écoute, c'est là où on se rend compte qu'effectivement, entre les éléments qui ont été donnés par rapport au roman et le film, on voit qu'il y a quand même de fortes différences. À qui sont-elles dues? That is the question. Pépé le Moko, c'est Jean Gabin, un célèbre caïd qui est planqué dans la Casbah à Alger. Il ne peut en sortir parce qu'il est recherché par toutes les polices de France. Souvenez-vous, l'Algérie, c'était la France. Les autorités tentent de l'arrêter, mais c'est impossible de pénétrer dans la labyrinthique Casbah. L'inspecteur de police Slimane, excellent Lucas Gridou, propose de lui tendre un piège, attirer un des complices de Pépé le Moko hors de la Casbah et le capturer parce que Pépé le Moko viendra nécessairement secourir son complice. Pour cela, il s'appuie sur un de ses indiques, Régis, magnifique Fernand. Mais Pépé le Moko tombe sous le charme de Gabi, Mireille Balin, sublime, belle, une touriste qui vit au crochet d'un riche homme vieux et gros. Elle ne résiste pas au beau Jean Gabin et elle devient son obsession. On est en 37, la Casbah est totalement reconstituée, les décors fonctionnent plutôt bien, on y croit et par moments on a l'impression de se retrouver dans des tableaux de Gustave Guillaumet, qui est un peintre orientaliste du 19e siècle, dont je recommande à tous d'aller voir les tableaux parce que c'est vraiment très très beau. C'est Julien Duvivier qui est à la réalisation, un cinéaste à la longévité impressionnante puisqu'il tourne Le Prix du Sang, son premier film en 1919, et Diaboliquement Vôtre, son dernier film en 1967. Soit une carrière qui s'étale sur près de 50 ans, il tourne plus de 60 films, et en 1937, il réalise, en plus de Pépé le Moko, donc la même année, L'Homme du Jour et carnet de bal. Et donc, nous allons écouter une belle discussion entre Toups et Linda, non, c'est cela ?
Oui, mais d'abord un extrait du film.
Donc, un extrait du film avant d'écouter Toups et Linda. Hop.
Et on Comment vous appelez-vous ?
Gisèle, ça fait Gabi.
Veuve ?
Pourquoi ?
Avec qui êtes-vous ?
Avec un monsieur.
Comment est-il ?
Jaloux.
Et vous habitez l'hôtel ?
Oui, à l'été.
Pourquoi riez-vous ?
Pour rien.
Dommage.
Dommage.
Dommage que je vous connaisse pas plus.
Pourquoi ?
Parce que je vous aurais fichu une paire de claques. J'aime pas qu'on rigole sans que je sache pourquoi.
Je me rappelle le 14 juillet, quand j'étais petite, aux Gobelins.
Vous êtes des Gobelins ?
Ça ne se voit pas.
J'étais à l'école rue de l'Arbalet.
C'est à côté de chez moi.
Ah, tu te rends compte ?
Bonsoir Julien, c'est nous.
C'est nous.
Bon alors, Pépé le Moko, hein. Pépé le Moko, bon, moi je vais tout de suite dire, j'ai des partis pris, hein. Donc Pépé le Moko... 1937. Je lui en laisse la place. Ou quand l'homme aux mille tubes n'en a pas les moyens, et bien c'est aussi Mohamed Igachen. Alors s'il y a un moment qu'il ne faut absolument pas rater dans un film, et quand je dis absolument, c'est bien entendu avec deux P, on est d'accord, hein. Eh bien, c'est le début. On est tous d'accord avec Woody Allen, du moins là-dessus. Comme quoi. Est-ce que le générique fait partie du début du film ? Je n'estime pas avoir les compétences pour trancher cette question sans la fidèle tronçonneuse thermique de Jack Nicholson dans Shining, mais par contre, je peux vous en dire deux mots, histoire de vous permettre de vous faire votre idée. Donc, le générique, c'est un carton gris avec des noms qui apparaissent en surimpression. Soit M. Hakim présente. Bon, alors ce nom est totalement inconnu. C'est peut-être les producteurs de ce film, dont tout indique que c'est pas précisément un produit bien de chez nous, puisqu'en plus on entend l'appel à la prière d'un muezzin. Alors on se dit pourquoi pas. Ok. Et puis pof, d'un seul coup, l'effet de surprise. Deuxième carton, le nom de Jean Gabin apparaissant sur fond d'appel à la prière. Alors là, c'est un peu chelou quand même, non ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Non, mais je sais pas, je te laisse avancer, j'écoute.
Et puis, pof ! Troisième carton, celui de Julien Duvivier, le réalisateur du film, en même temps que des petites percussions de la famille des Sistres qui entrent sous la voix du muezzin, accentuant le trouble du spectateur. Et c'est là que la monteuse décide d'achever le spectateur. Carton, le titre du film. Pépé le Moko apparaît en même temps que le thème musical du générique. Soit une musique entraînante, dansante même, franco-française et typiquement parisienne d'avant Seconde Guerre mondiale, qui prend le pas sur toute idée de sonorité ethnique en évacuant la voix du muezzin. Quand je dis qu'il n'y a plus la moindre idée de sonorité ethnique, comment dire ? On est sur une rythmique entre boléro et calypso, quand même. Bon.
C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de transition entre les deux, mais bon, je...
Voilà. Oui, mais en même temps, c'est assez finement réalisé. C'est un peu... C'est mixé, un peu comme façon DJ. Alors, du coup, à partir de là, les cartons peuvent s'enchaîner. L'essentiel du premier message est passé en l'espace de 17 secondes. L'action du film se passe chez les Nyakwe, mais on est chez nous. Cette monteuse est un génie du montage. C'est un film de 1937. C'est vrai que ça fait plus de 20 ans que Chaplin monte lui-même tous ses films. Mais lui, c'est un génie tout court. C'est pas pareil. Tous les réalisateurs n'étaient pas des monteurs. Alors, à partir du cinquième carton, on peut annoncer la liste des avec. Donc, avec, cinquième carton, Mireille Balin, qui tient le rôle de la femme fatale. Sixième carton, Gabriel Gabriot, qui tient le rôle du faire-valoir. Septième carton, Lucas Gridou, qui tient le rôle du meilleur ennemi mielleux et fielleux. Huitième carton, Gilbert Gilles, qui ne chante pas en portugais du Brésil, mais s'en tient au rôle du petit con. Voilà, c'est fait. À partir de maintenant, on peut enchaîner avec la litanie des « et ». Donc, neuvième carton, Lynn Noro, qui a pourtant le rôle déterminant dans le film de ex-premier rôle féminin.
Pourquoi tu dis « pourtant »
Mais parce qu'elle arrive...
Elle arrive en neuvième, c'est ça que tu veux dire?
Oui, elle arrive...
D'accord.
Ouais.
C'est vrai qu'elle a en tant que femme, elle a même le rôle principal. Enfin, c'est elle qui est la plus présente, quoi.
Bah, oui.
C'est Inès qui est censée être une gitane.
Oui, c'est ça.
Bon, c'est du noir et blanc, donc ça va. Hein, si elle est foncée, ça passe.
Il y a du Rick Paulin quand même, hein, sur
ouais,
la figure.
Bon, je sais pas si t'as marqué. Moi, ça m'a pas trop marqué. Mmh. On lui laisse les cheveux. De toute façon, c'est très blanchi. Enfin, ceux qui ont des rôles sont tous français, de toute façon. Par contre, moi, je trouve que c'est une des scènes avec elle. C'est une des scènes les plus... Enfin, il y a quelques scènes, moi. Il y en a deux vraiment qui m'ont marquée. Celle avec cette comédienne qui joue vraiment bien et très intense, je trouve, par rapport au type de jeu de l'époque. Et quand, à un moment... Donc, ils sont en couple avec Pépé. Gabin, alias Pépé, voilà. Mmh. Rôle principal. Pour le coup, alors moi, par rapport à Gabin... Et à un moment donné, il y a un tel mariage. Alors c'est souvent ce qu'on dit de lui. Hein. Il y a un tel mariage entre le personnage et le comédien. Enfin, je sais plus si c'est le caractère du, sans faire de mauvais jeu de mots, du personnage ou du comédien, qui m'a pas surprise un instant. Du coup, et ça vient aussi peut-être de l'écriture du personnage. Hein. Je veux pas jeter de pierre à la pierre. Sauf là, dans cette scène-là, où lui, il a bu, il est tendu, et ça rend pas l'état dans lequel peut rendre un alcool fort.
Ça rend donc, pas intelligent.
Non, ça rend pas forcément très intelligent de boire beaucoup d'alcool fort. Et on a vraiment l'impression qu'il va la tabasser. Parce que c'est quand même très tendance dans le film, hein, de mettre des roustes, que ce soit aux Arabes ou aux femmes. Hein, c'est un peu pareil, c'est très tendance. Ceci dit, en passant, le droit de, à l'époque, on n'avait plus le droit de correction sur ces femmes, mais c'était quand même assez récent.
Alors, c'est très tendance d'avoiner, mais tout le monde, en fait, c'est une tendance de mal dominant. Parce que tu vois bien, même dans sa propre bande...
Il donne des claques aussi. Il distribue.
Il est un grand distributeur.
Il est très gonflé à la testostérone, le personnage. Et bien là, justement... contre-pied total, on sent ça monte, il est tendu, ça joue bien hein, des deux côtés, il est défait, il est plus le joli beau gosse machin, et on se dit waouh, il va la défoncer,
et c'est horrible parce qu'on se dit il va la défoncer, ça va être
et
moche,
il lâche, il la regarde, et là c'est compassion, il se dit mais qu'est-ce que tu fais avec moi, tu mérites mieux quoi, en gros,
ouais.
T'es vraiment une gosse sympa, et je suis vraiment un sale type pour toi. Ça n'empêchera pas qu'il sera de nouveau un très sale type derrière avec elle. Mais là, sur cette scène-là, ah, c'est touchant, c'est désarmant. Bravo. Je te laisse terminer ou continuer.
Enchaîner, oui, parce qu'on est toujours.
Enchaîner, je n'avais pas de souci.
Parce qu'on est toujours. Moi, je suis toujours sur le générique.
Ah, t'es sur le générique, toi, pardon, je suis allé un peu vite.
Ah oui, non.
On va faire 2 heures d'émission, Julien.
Non, mais très, très vite, hein, parce qu'effectivement, en fait, il y a un moment où on pense que ça y est, on a eu toute la liste, et puis en fait, c'est entre le 13e et le 14e carton qu'il y a un changement de musique.
Mais à l'époque, ça se faisait. Hein. On faisait mais pas des génériques longs à la fin, on faisait tout au début. Hein. C'était assez kilométrique.
Et puis, changement de musique, là, on passe sur un truc très lent. Alors qu'on était sur une musique dansante entraînante, on passe sur un truc très lent avec beaucoup de cordes. Et puis, d'un seul coup, on se dit eh ben non, parce qu'on a les opérateurs, l'assistant, la monteuse. Alors, la monteuse, Marguerite Bauger, hein, dont je salue le travail. Je salue le travail de tout le monde hein, sur ce film. Mais...
Oui, à part sur un petit plan de coupe, mais bon. Je suis pas. Oui, à un moment donné, c'est vraiment... Hein,
c'est...
Quand ils se battent à moitié, enfin, il y a un truc, il y a un plan, gros plan sur Gabin. Tu dis, alors là, c'est complètement... Ça a été tourné complètement à un autre moment,
oui,
mais
oui,
ça se voit.
Oui,
il y a deux, trois trucs comme ça.
C'est vrai.
Bon, voilà, c'est 1937, hein.
Oui, oui, moi j'aime beaucoup.
Et donc, pardon, je t'ai coupé.
Eh bien, en fait, on s'est reparti parce qu'au 15e carton, il y a marqué distribution. Et là, il reprend tous les noms
oui.
de tout le monde, mais avec les noms des personnages qui
et,
sont.
Et la distribution non mixte, on a vu.
Eh bien, la distribution, c'est-à-dire que là, tu prends tous les noms avec tous les personnages correspondants. La première femme arrive après tous les hommes. En ayant pris soin de sauter une ligne.
Et il ne faut pas que ça se mélange.
Et tu as cinq femmes, en fait, finalement. Alors qu'il y a beaucoup de femmes dans le film, mais tu as cinq personnages. 16, 17, 18, 19 et 20e position.
Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein.
Non, mais là, c'est... Et il y a une femme dans le lot, un personnage secondaire qui est joué avec une justesse infinie. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas jouer. On a l'impression de voir... la vie de quelqu'un incrusté dans le film. Et cette femme-là, c'est la chanteuse Fréhel.
Qui joue le rôle de Tania.
Qui joue le rôle de Tania et qui nous gratifie d'un des moments les plus émouvants du film.
Alors justement, oui, j'avais envie de parler de ce passage. Elle veut remonter le moral, en fait, de Pépé. Et elle lui dit, tu devrais changer d'époque. Il dit, quoi ? Et il dit, ben moi, quand ça va pas, je regarde une photo de moi jeune, je me dis que c'est mon miroir. Et je repars dans le passé, je repense à ce moment où elle était star, en fait. C'était la Scala, c'était boulevard vers la porte Saint-Martin, là. Porte Saint-Denis, tout ça. Grand boulevard à Paris.
Boulevard de Strasbourg ?
Ouais, dans ce coin-là. Mmh. Bref, ça c'est une petite aparté pour les Parisiens. Et elle met un disque, vraiment. Donc on a, c'est elle qui chante sur le disque. Et elle s'écoute. Et on a cette mise en abîme du personnage Tania et de Fréhel. Et au bout d'un moment, elle se met à chanter. Donc c'est un léger décalé.
Par-dessus
le disque, mais en léger décalé qu'on entende vraiment sa voix. Elle chante, c'est magnifique. Et elle se met à pleurer en même temps, d'émotion. Franchement, moi j'ai pleuré avec, quoi. Et c'est d'une beauté. Elle est touchante, émouvante, enfin tout ce qu'on veut. Et lui, derrière, comme un gros goujat, il va lui demander de transmettre donc à Inès, la femme, qu'il quitte pour partir avec une autre. Il prend même pas la peine de lui dire qu'il la quitte. Et il demande à Tania de le faire à sa place en disant bah, « Tu sauras mieux t'y prendre que moi. »
Il a une phrase épouvantable.
Ouais, il a une phrase épouvantable. « Toi aussi, tu as été femme. »
Tu as été femme, tu sauras dire ça.
Ah là là, c'est violentissime. Ouais. Bref, c'est une scène incroyable. Et je trouve que c'est un des génies de ce film, qui a des côtés prévisibles. Ah, nous avons une petite, un petit interlude de Toups. Un petit interlude musical. Il y a des côtés absolument... Alors, prévisible, je ne sais pas si ça vient du réalisateur ou des attendus des producteurs, ou de ce qu'il fallait faire, etc. Alors, je n'arrive pas trop à savoir parce que c'est tellement contrasté entre la subtilité et la poésie qu'il y a dans certaines scènes et d'autres, comme le déroulement du scénario qu'on voit arriver gros comme un camion depuis quasiment le début.
Oui, mais c'est bizarre parce qu'il y a quand même il y a des beaux dialogues, surtout dans la première partie du film, il y a des dialogues qui sont vraiment.
C'est disparate en fait.
C'est inégal.
C'est inégal. Il y a des moments attendus, et par contre, on n'a pas dit, les dialogues sont écrits par Henri Janson, et il y a des perles, quoi. Il y a vraiment des perles. Donc, c'est vraiment, moi je dirais, avoir la patience des moments qui sont plus bancals pour profiter de ces perles. Il y a vraiment, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des moments magiques.
Et moi je me suis dit, juste au vu de cette introduction, de ce début de film, enfin même avant le début du film, enfin peut-être, n'est-ce pas, c'est juste les cartons du générique, je me suis dit, conclusion, bon, le patriarcat sous toutes ses formes est rassuré, le film peut commencer. La seule chose qu'on ne sache pas encore, c'est ce que vaut le personnage qui tient le rôle titre, ce qu'il vaut en tant qu'être humain. Et ça, c'est ce qu'on apprend par la suite.
Ouais.
Et voilà, c'était la discussion enregistrée entre Linda et Toups au sujet de Pépé le Moko. Eh bien, nous, on a le bon rôle parce qu'on va pouvoir réagir à ce qui s'est dit. Alors, Luc, c'est quoi ton avis sur ce film ?
Bah, écoute, moi, il y a deux approches, en fait. Moi, je ne tomberais pas dans la révérence complète. Voilà, c'est un grand film. C'est un excellent film. C'est un film qui tient, à mon avis, peut-être essentiellement dans ces 5 dernières minutes. Voilà, la séquence finale est extraordinaire puisque elle engage Jean Gabin à commettre un acte qui ne peut pas être commis par Jean Gabin. Voilà. Moi, de ce côté-là, voilà. C'est, pour moi, ce serait, disons, le premier sentiment. Après, quand je dis que j'ai pas envie d'avoir de révérence parce que c'est vieux, que c'est bien, premier réflexe, je dirais que c'est un film donc qui date d'avant la deuxième guerre mondiale, avec les moyens de l'époque. Il me semble, moi, que Duvivier a été gourmand, ambitieux. Tourner 3 films dans la même année, c'est beaucoup. Et peut-être que Pépé Le Moko souffre peut-être peut-être d'une réalisation trop rapide ou autre, alors que pourtant, il y a des décors, il y a des personnages, mais il y a des facilités qui font que moi, je l'ai regardé, je l'avais vu il y a... Alors, je dévoile toujours mon âge en disant ces choses-là, mais je l'avais vu il y a plus de 50 ans, vraiment plus de 50 ans, pas 60, parce que c'était pas possible, mais plus de 50 ans. J'en gardais une image, il était très imprimé en moi, et je l'ai redécouvert là, parce que j'ai pas vu le même film, bien entendu. Voilà, c'est un... Enfin, voilà mes premières réactions.
Oui, alors, quand tu dis que Duvivier, il tourne 3 films la même année, c'est un peu l'époque qui veut ça aussi. Il y a une... Je ne dirais pas qu'il y a une surproduction, mais une production effrénée de ceux qui peuvent faire des films. Gabin, il commence sa carrière en 31, l'année du roman. On est en 37. Mm-hmm. Et c'est déjà sa 5e collaboration avec Duvivier. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'en 6 ans, il est presque la star qu'il va devenir. Et il a déjà tourné La Belle Équipe. Il a déjà toute cette aura. Et en plus, il est encadré d'acteurs et d'actrices qui, eux, tournent, mais de façon frénétique aussi. Comment elle s'appelle? Mireille Balin, la femme fatale, Gabi. Mm-hmm.
Oh Gabi,
elle a une filmographie, c'est impressionnant, c'est.
Effectivement, quand on essaye d'assembler les éléments historiques, de se remettre, de contextualiser, puisqu'il faut toujours contextualiser. Bien sûr qu'on est obligé de reprendre, de se remettre dans l'époque, mais ça n'empêche pas. Bon, moi je pense que il y a des. Il me semble pas qu'on retrouve ça dans d'autres films. Par exemple, alors on va dire c'est que de la technique, mais la technique elle joue sur le regard qu'on a et sur la manière dont on voit une œuvre. L'usage des projecteurs, de l'éclairage. L'usage de l'éclairage dans ce film, il est excessif. Les plans, les éclairages sur les yeux, et uniquement les yeux de Jean Gabin ou de Mireille Balin. À un moment donné, Inès, la femme de... pas la femme, Gabin peut, enfin Pépé Le Moko peut pas être marié, c'est pas possible. Donc la femme avec qui il vit dans la Casbah entre à un moment donné, là où est installé Pépé Le Moko, et là il y a c'est donc un champ contre champ. On est d'abord, la caméra est tournée vers la salle, puis la caméra se tourne vers la porte. Et là, la porte s'ouvre et au moment où elle s'ouvre, il y a un projecteur qui s'allume et qui fait un cercle sur le visage de Inès. C'est très déstabilisant. Il faut que j'en parle. La Belle Équipe, Jean Gabin chante « Quand on se promène au bord de l'eau ». Voilà. C'est le tube. C'est le tube de Jean Gabin. Et là, dans Pépé Le Moko, il doit chanter une chanson qui est d'un ridicule achevé. La scène est d'un ridicule achevé. Enfin, c'est terrible, quoi. Donc, il y a... même rétrospectivement, il y a un moment donné où on sent... Et c'est pour ça que moi, je parle un peu de rapidité, facilité de réalisation, qu'il y a des trucs qui ont été pris par Duvivier, et ben voilà, des fois ils marchent pas, quoi.
Oui, alors là, je trouve un peu dur. Que Duvivier soit
très dur.
Que Duvivier soit un usineur,
oui.
Ça ne fait aucun doute. Il a un truc qui marche, c'est dans Pépé le Moko, c'est j'introduis la casbah, je mets de l'exotisme, je mets un peu d'ethnologie derrière tout ça.
Oui.
J'essaye d'être assez éloigné du syndrome colonisateur.
Mm-hmm.
D'ailleurs, je montre bien que les flics français comprennent rien du tout à la réalité de terrain.
Mm-hmm. Oui.
Et après, je développe une histoire de triangle amoureux avec deux femmes et un gars. Et puis, je finis par une scène forte. Mm-hmm. Si on prend simplement ça, la quintessence de ça, on a 4 ans plus tard Casablanca de Curtis. C'est exactement la même chose.
Ouais.
C'est exactement la même chose.
Mais c'est Casablanca.
Oui.
Faut le reconnaître.
Non, mais, d'accord. c'est Bogart, là, c'est Gabin.
Ah, oui.
Mais le canevas, c'est le même. Pour moi, le canevas,
oui.
le canevas, c'est même. Donc, on a, et Curtis, c'est un usineur. Casablanca, ce qu'il fait, c'est le seul film que tu connais de Michael Curtis. Il en a fait d'autres. Il a même refait des plagiats de Casablanca en Martinique. C'est un usineur. Il fait un très bon film. Alors, Duvivier, peut-être que toi, tu privilégieras d'ailleurs la belle équipe que tout ce qu'il a fait, que tout ce qu'il a fait ailleurs.
Ben, oui, certainement, oui, mais bien sûr, oui, bien sûr que La Belle Équipe pour moi fonctionne mieux. Mais pour moi, si tu veux, la question du cinéma, il y a deux éléments. En tout cas, moi, quand je regarde un film, la question que je me pose systématiquement, c'est où est-ce qu'est le cinéma? Et à un moment donné, quand les éléments deviennent on peut trop les isoler, c'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivent plus dans la cohérence de l'histoire qu'on nous raconte. Voilà, ça me dérange parce que ça me fait sortir de l'histoire dans laquelle on est. Autre exemple, je peux prendre un autre exemple. Alors, bon, ça a ému Linda, je comprends son petit cœur sensible, mais la séquence avec Fréhel qui met son disque et qui chante, elle est insupportable. Elle est insupportable parce qu'elle est le coup de la femme à l'étranger qui regrette son pari, etc., etc. Et elle est insupportable. Elle devient d'autant plus insupportable aujourd'hui que c'est Fréhel qui chante et que Fréhel a une voix admirable. Elle a un répertoire fantastique. Enfin, moi, j'adore Fréhel. Mais en fait, là, ça pose un problème, parce qu'à un moment donné, on est dans quelque chose qui est excessif, en tout cas, moi, qui m'apparaît comme excessif aujourd'hui. Ça me touche pas du tout, quoi. Vraiment, moi, la séquence finale, voilà, je trouve que là, il y a une montée dramatique entre Gabin et Gabi. Gabi. Gabi qui est sur le bateau, qui n'entend pas Gabin, qui se tourne, qui tombe, qui s'effondre d'amour, et Gabin tout pareil, qui s'effondre d'amour. Je trouve que là, on est dans quelque chose qui est qui est génial cinématographiquement. Tout est génial. La grille qui est devant Jean Gabin, enfin, tout est génial.
Avec Inès Lamoraise de l'autre côté de la grille, donc elle ne peut pas sortir.
Et qui ne peut pas sortir. Enfin, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça. Donc là, je trouve qu'on est dedans. Il y a d'autres moments où je trouve, moi, et t'as raison, les éléments par exemple de décor, la reconstitution, tout ça me semble très très réussi, avec une vraie démarche de vérisme. Enfin, il y a quelque chose de vraiment bien. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé revoir le film, hein. Tout comme j'ai aimé lire Agatha Christie. Mais bon, si je suis un peu critique, quoi, je prends un peu plus de distance, quoi.
Oui, alors moi j'ai sûrement un regard un peu plus naïf, et pour moi c'est un film d'aventure qui se passe à l'aventure du cinéma, c'est-à-dire que à cette époque-là, c'est vraiment fait de briques et de broc,
oui.
Et ça fonctionne vraiment vraiment très très bien. Bref, vous comprendrez que nos avis sont globalement tournés vers le même horizon, même s'il y a des petites différences.
Dans le même sens, mais pas avec les mêmes yeux.
Voilà, et puis c'était Pépé le Moko. Je vous rappelle que nous avions aujourd'hui en interview Thierry Tuborg pour la réédition donc du roman de son grand-père Henri Labarthe, alias le détective HLB. C'est aux éditions Relatives. La semaine prochaine, on laisse la place à nos amis imaginaires. À dans 15 jours. N'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook ou sur le site de Radio G pour en savoir plus. Bye bye, les amis.